Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fait pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Pas de chat, ni de chien, pas de poisson rouge, de cochon d'Inde ou de lapin, quelques souris. Mais les bestioles n'étaient pas forcément invitées. Les animaux n'ont jamais fait partie de mon environnement domestique. Je suis incapable de tuer un moucheron et en même temps, incapable de développer un sentiment pour un animal. Tout a basculé un jour d'été. Dans les eaux de la Méditerranée, il a suffi d'un masque, d'un tuba et d'une paire de palmes. Le spectacle sous-marin qui m'est apparu a provoqué une forme d'émerveillement absolu. Au-delà du bien-être que je ressentais à évoluer dans l'eau, je me suis sentie appartenir à cet univers peuplé de mérous, de petites algues, de coquillages, de bancs de poissons aux écailles lumineuses. Je suis souvent retournée plongée et à chaque fois la curiosité pour cet environnement et la beauté des sites m'ont laissée sans voix. Tout a basculé donc ce jour d'été. Les delphinariums, les aquariums, le bocal avec Jojo le poisson rouge sont devenus des objets de détestation, tout comme les zoos. Je n'y voyais qu'emprisonnement et maltraitance. Mon appréhension du monde animal s'est alors métamorphosée. Je le regarde avec respect, bienveillance, empathie et avec mes contradictions aussi. Oui, je mange toujours de la viande et du poisson, moins qu'auparavant. J'ai changé, comme beaucoup d'entre nous. Mais cette prise de conscience est-elle trop tardive? Avons-nous encore la possibilité de renouer avec le monde animal? Peut-on cohabiter ou coexister avec toutes les espèces? Et vous, quel est votre rapport aux animaux?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer notre rapport au monde animal. Bonjour Valérie Chansigaud.
Bonjour.
Vous êtes historienne, autrice notamment d'un livre remarquable, Histoire de la domestication animale. C'est aux éditions de Lachaud et Niesley. Avec nous également Hugo Clément. Bonjour Hugo.
Bonjour Eva.
Vous êtes journaliste. Votre dernier livre, Journal de guerre écologique, est publié chez Fayard. Depuis 2019, vous présentez également l'émission Sur le front qui est diffusée sur France 5. Et en ligne avec nous, Laetitia Doche. Bonjour Laetitia.
Bonjour Eva.
Vous êtes comédienne, vous serez présente aux rencontres Agir pour le vivant ce soir à Arles, une soirée au cours de laquelle vous évoquerez votre attachement au monde du vivant. J'ai une première question à vous trois. Est-ce que vous avez vécu ou est-ce que vous vivez aujourd'hui avec des animaux, Valérie Chansigaud?
Alors, j'ai toujours eu quelques animaux près de moi, oui. Si j'ose dire, depuis mon enfance. Alors quand j'étais petite, c'était notre chienne qui était dans la maison, mais également et ça fait partie de mon histoire, des blattes orientales, des grosses blattes qu'on avait dans la salle de bain. Et c'est important de toujours garder un œil sur ce qui paraît évident dans notre rapport à l'animal et sympathique, à savoir les animaux domestiques, et aussi cette part de sauvage incontrôlable.
Eh oui.
Et parfois incontrôlé, qui peut y avoir et qui peut surgir, en fait. Et notre relation est complexe et multiple. Et ça, c'est quelque chose qui m'a paru évident, mais vraiment depuis très longtemps.
Depuis que vous étiez enfant, c'est ça. Donc vous, c'était les blattes, moi, c'était les souris, vous voyez, comme quoi. Hugo Clément, est-ce que vous vivez ou est-ce que vous avez vécu avec des animaux?
On vit toutes et tous avec des animaux, puisque l'humain est un animal.
C'est vrai.
Donc si on a de la famille, des amis, on vit avec des animaux. Mais pour les autres espèces, moi, j'ai jamais eu un animal domestique, parce que c'est beaucoup de responsabilités, il faut pouvoir s'en occuper, avoir le temps. Le seul moment où j'ai vécu avec un animal de compagnie, c'était quand j'étais un peu plus jeune, avec le chat de mes parents. Mais depuis, non.
Plus aucun animal dans votre environnement au quotidien. Laetitia Doche, je vous pose la question, mais je connais un peu la réponse parce que vous en parlez notamment dans votre spectacle intitulé Hâte. C'est un spectacle étonnant où vous étiez nu et accompagné d'un cheval sur scène. Vous racontez dans un extrait du spectacle comment vous avez grandi dans un appartement avec des animaux.
Il y a ceux qu'on recueille lorsqu'ils sont blessés, ceux qu'on mange, ceux qui sont nos compagnons, ceux qu'on cloue au mur lorsqu'ils sont morts, ceux dont on met les œufs dans des boîtes. Les pies y réparent lentement leurs ailes. L'une d'elles apprend à parler, ça devient mon ami imaginaire vivant. 10 000 œufs d'oiseaux dans leur nid d'origine sont soigneusement vidés, étiquetés et placés dans la gigantesque bibliothèque qui leur est dédiée. Et tu sais, quand on va dans la cuisine, il y a des cuisses poilues et sanguinolentes de chevreuil à côté des yaourts dans le frigidaire.
Laetitia Doche, comment vous avez grandi dans cet univers peuplé d'animaux ?
Ce qui est drôle, c'est que je m'apprêtais à répondre à votre question d'avant, qui était avec quel animal je vis.
Oui.
C'est vrai que je vis avec beaucoup d'animaux, des cafards. Je crois qu'il y en a quelques-uns là où, dans l'appart que je loue, par exemple. Mais par contre, en écoutant
l'extrait,
sur mon enfance, je n'aurais pas d'animal à moi. Je ne me sens pas d'être maître d'un animal. Ce rapport-là me fait peur, en fait. Et heureusement, j'ai découvert que les humains, effectivement, font partie du règne animal.
Ouais.
Et ce rapport, par rapport d'égalité, j'aurais beaucoup aimé l'avoir avec d'autres espèces, mais non, pas avec des animaux domestiques. En tout cas, ça n'arrivera pas.
Mais d'ailleurs, quand
j'ai fait
vous...
le deuil de ça.
Mais quand vous êtes en piste avec ce cheval, Laetitia Doche, oui. Est-ce qu'il y a un rapport de domination ? Est-ce que vous vous sentez dominée ou dominante, en l'occurrence ?
Clairement, le cheval a besoin... Et ça, c'était un grand deuil à faire, je vous avoue. Il a besoin que je lui donne des directives claires, des lignes claires, que je sois très forte dans mon corps. Sinon, il commence à faire n'importe quoi, à me mordre, à m'attaquer. Il a besoin que je sois en position...
De domination ?
De domination, ouais. Et ça a été un gros travail pour moi, un travail très bien en tant que femme, hein. Parce qu'on a tous ce travail-là. Enfin, moi, j'ai ce travail-là à faire, mais voilà, il a besoin quand même que les rôles soient clairs. C'est moi un peu le chef de meute, si vous voulez, ouais. En tout cas.
Valérie Chansigaud, on a besoin de votre éclairage pour un petit exercice de définition, parce qu'on parle du monde animal, mais c'est quoi le monde animal ?
Vous avez donc 3 heures à consacrer.
Voilà, c'est ça à peu près.
Cette tentative de
prévenez les autres émissions qu'on les annule.
Le mot animal en français vient à l'époque de la Renaissance d'un besoin, parce qu'à l'époque on utilisait 2 mots, le mot bête et le mot brute, qui a disparu peu à peu du vocabulaire, pour désigner tout ce qui était les animaux non humains. Et ça allait très bien quelque part. Et à la Renaissance, au moment où on commence à étudier scientifiquement le monde vivant, on se rend compte qu'il y a un groupe beaucoup plus grand qui est de l'ordre de l'animé, ce qui bouge quelque part, et dans lequel il y a effectivement les bêtes plus l'être humain. Et le mot animal sert à rassembler tout ça. Il n'y a pas de distinction. La distinction entre l'homme et les bêtes va apparaître à travers le mot animal, ce qui va rendre compliqué son usage à partir du 18e, du 19e siècle. Il y a donc 2 sens au mot animal. Le mot animal qui désigne tous les animaux, y compris l'être humain, et quelque part le synonyme de bête utilise parfois en lieu et place de bête. Ce qui fait une sorte de bazar pas possible, qui est bien la caractéristique de notre époque concernant le vocabulaire. Mais le terme animal, à l'origine, rassemblait en fait
toutes les espèces vivantes. On est d'accord.
Toutes les espèces.
Animées. D'accord. Et alors, on continue dans l'exercice de la définition. Ça va être encore plus compliqué. Comment vous définissez les animaux domestiqués ?
La domestication est une transformation héréditaire de certaines espèces sauvages à l'origine en quelque chose d'autre. Comment on le fait ? On le fait de façon très simple et très brutale. On prend des individus. On en garde certains, on tue les autres. Les individus que l'on garde, on les fait se reproduire et on refait le même mécanisme génération après génération. Et cette sélection que l'on fait sur ces individus va produire quelque chose qui est différent de ce qui était à l'origine. Le loup gris, par exemple, est totalement différent du chien. Le chien a des caractéristiques, des capacités d'interaction, notamment avec les êtres humains, qu'un loup, même élevé à sa naissance, est incapable. Et comment le chien a ses caractéristiques ? C'est simplement en naissant. En fait, c'est un héritage héréditaire qu'on a mis parce qu'on a fait une sélection naturelle. Et c'est à distinguer avec l'apprivoisement qui consiste à prendre un individu sauvage et à l'habituer à la présence humaine. Et simplement, cette habituation n'est pas héréditaire. Lorsqu'il va, même s'il se reproduit, ça meurt avec lui.
D'accord.
Sa descendance n'aura pas ces caractéristiques. Et donc, la domestication, c'est vraiment une transformation radicale. Tous les animaux avec lesquels on a des relations ne sont pas pour autant domestiqués.
D'accord.
Ou ils sont en cours de domestication. Il y a une sorte de zone grise entre les espèces purement sauvages, les blattes orientales dont je parlais, et les espèces purement domestiques. Par exemple, le chien auquel on pense, mais aussi le ver à soie, qui est une espèce qui est incapable de vivre dans la nature. Et donc, entre ces 2 pôles, il y a une zone grise où plein d'animaux se situent. Par exemple, le chat.
D'accord. Et donc, quand on parle des animaux sauvages, c'est pas forcément le jaguar et l'ours polaire. C'est aussi des petits animaux qui n'ont pas été domestiqués.
Alors,
vos fameuses blattes orientales.
Les animaux sauvages, en fait, les espèces sauvages, plus exactement, c'est l'essentiel du monde vivant en termes de diversité, mais pas forcément en termes de poids. C'est-à-dire, si on regarde le poids total sur la planète des mammifères, aujourd'hui, il y a très peu de mammifères sauvages, et l'essentiel des mammifères sont le bétail plus les êtres humains. Si on regarde, par exemple, le poids total des poissons, c'est pas du tout la même chose. Le poids total des insectes, non plus. Mais l'immense diversité du monde animal sauvage, ce sont des petites bêtes. À 99% quasiment, ce sont des invertébrés. Insectes, arachnides, crustacés.
Et autres.
Et autres.
Dit. Hugo Clément, à quel moment vous vous êtes intéressé particulièrement au monde animal et à la défense de ce monde animal?
Moi, c'est venu à travers mon métier de reporter qui m'a amené à découvrir de mes propres yeux des choses que je ne connaissais pas et auxquelles je m'intéressais pas, notamment les élevages intensifs, notamment les rencontres que j'ai pu faire avec les ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, ce que j'ai pu constater en termes de déforestation en France et à l'étranger, principalement à l'étranger pour ce qui est lié à l'exploitation animale. Et puis en fait, partout où j'allais, pour des sujets qui n'avaient rien à voir avec la question animale, je me rendais compte qu'il y avait des problématiques liées à cette question, que partout dans le monde, il y avait cette souffrance animale, cette exploitation des espèces par l'homme, et qu'elle posait d'immenses problèmes.
Oui.
Qu'on parle des algues vertes en Bretagne, qu'on parle de la déforestation en Amazonie, qu'on parle des orangs-outans en Indonésie, toutes ces choses-là sont liées à l'exploitation industrielle et très brutale qu'on fait des animaux.
Et c'est cette notion de domination de l'homme sur les autres espèces vivantes qui est remise en question aujourd'hui et qui vous intéresse particulièrement?
Je pense pas que la domination soit remise en question. L'homme en tant qu'espèce est l'espèce dominante aujourd'hui. Moi, ce que je conteste un peu, c'est la supériorité. Et c'est deux choses différentes. Dominant et supérieur, c'est pas la même chose. On peut être dominant, c'est ce qu'on est aujourd'hui, mais ça peut être très éphémère, la domination. Est-ce qu'on le sera encore demain? On ne sait pas. On l'était pas hier, est-ce qu'on le sera demain? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas supérieur. La supériorité, c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'on crée des hiérarchies entre les espèces en fonction des critères qui nous intéressent. On va essayer de trouver chez les autres espèces des points communs avec nous.
Ouais.
Mais par exemple, sur la question du langage, on ne sait pas ce que se disent les animaux. On ne se comprend pas. Et à qui la faute? Est-ce que c'est parce que ce sont les animaux qui ne sont pas assez intelligents pour parler notre langage, ou est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre le leur? Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de modestie en tant qu'espèce. L'espèce humaine, c'est une espèce qui est très jeune. Déjà, à l'échelle de la planète, si la Terre avait une journée, on apparaîtrait à 23h59 et quelques secondes. À l'échelle de l'évolution, on est un battement de cils et on est très fragile. Et la crise du Covid, à mon sens, a révélé cette fragilité. En quelques mois, ce qu'on pensait impossible, c'est-à-dire cloîtrer les gens chez eux, arrêter de travailler, fermer les frontières, interdire aux gens de se déplacer, tout ça est devenu possible du jour au lendemain parce qu'on a été fragilisé par un virus, le coronavirus. Donc on est très fragile et notre fragilité va s'accentuer avec la dégradation de l'environnement, avec la destruction de la biodiversité et avec la crise climatique qui s'aggrave.
Valérie Chansigaud, vous êtes d'accord avec cette différence que Hugo Clément fait entre domination et supériorité?
Oui, j'aurais pas forcément utilisé les mêmes mots, mais les idées sont là. Il faut bien voir qu'il y a un rapport brutal et violent pour produire une sorte d'inégalité vraiment fonctionnelle. Ouais. Et ça, c'est à l'œuvre tant à l'égard de la nature, le fait de pouvoir élever en batterie, par exemple, toute une série d'animaux, mais également, ça s'exprime à l'égard d'autres êtres humains. C'est-à-dire que la frontière entre la brutalité et la violence dans notre monde à l'égard des animaux ou à l'égard des êtres humains, en fait, il n'y a pas de frontière. Les deux s'alimentent, les deux se nourrissent et les deux se sont toujours alimentés et nourris. Juste très rapidement, l'essor des premières domestications de grands herbivores, vaches, cochons, chèvres, etc., s'est accompagné de l'émergence de sociétés de plus en plus inégalitaires avec l'émergence de la notion vraiment d'accumulation de propriété privée. La première forme de propriété privée était l'accumulation de troupeaux d'animaux domestiques. Donc on voit bien que cette domination à l'égard des animaux a servi en fait la construction de modèles extrêmement brutaux et violents à travers l'histoire.
Alors, on va revenir sur ces modèles dont vous parlez. On va revenir sur les conséquences de cette domestication. On en attend aussi vos témoignages. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire. Quel rapport vous entretenez avec le monde animal? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué sur les questions qui sont liées au bien-être animal, par exemple? Pour cela, un numéro de téléphone, le 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton réagir de la page de l'émission, L'été comme jamais, via l'application ou le site.
C'est l'été, saison des concupiscences. Le soleil te réchauffe l'essence. Des tentations bronzées te font l'enfer. Moi seul, je regarde la mer. Oui, car l'homme idéal, c'est moi. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me mérite. L'homme idéal, c'est moi. Le sort a dit, ce serait toi. Projectiles m'ont fendu l'occiput. Des choses qui arrivent dans les disputes. Mais les disputes, ce n'est pas cher payé. Si je peux te ensuite surveiller. L'homme idéal, c'est moi. Il fallait désigner quelqu'un qui en profite. L'homme idéal, c'est moi. Et Jacques a dit, ce serait toi.
Bertrand, à quoi vous pensez le soir en vous couchant?
Souvent, on me demande mes trucs,
c'est quoi vos trucs,
mon secret.
Vos secrets.
En un mot, comment je fais pour être ce que je suis?
Comment vous faites pour être
ce que je réponds généralement, si je le savais, du coup, je ne le serais pas.
Ah bon?
Eh oui, forcément.
Si vous,
je vous laisse cogiter à ça.
Une garniture à pizza.
Lancer des ports, j'ai bien peur qu'il en reste encore. Jamais n'ai-je tenté le harcèlement. Ici on fait de l'art seulement. Dès lors, l'homme idéal, c'est moi. Longtemps chercher quelqu'un qui m'aimait. L'homme idéal, c'est moi. De suite, ce serait toi. Because l'homme idéal, c'est moi. La vie est courte, donc savoure et profite. L'homme idéal, c'est moi. Et ne vois pas qui d'autre à part toi.
La chanson L'homme idéal, interprète Bertrand Burgala. L'histoire ne dit pas si la chanson est autobiographique.
L'été comme jamais. Eva Rock. Sur France Inter.
Comment renouer avec le monde animal? C'est la question qui nous anime ce matin dans L'été comme jamais. Une question qui nous touche dans notre quotidien et qui soulève nombre de questions philosophiques. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de l'hebdomadaire Le 1. Le numéro de la semaine est intitulé Le monde sauvage et nous, cohabiter, avec notamment une excellente interview du philosophe Baptiste Morisot. Laetitia Doche, est-ce que cette cohabitation que vous avez vécue avec les animaux quand vous étiez enfant et qui continue aujourd'hui, vous dote d'une sensibilité particulière au rapport et un rapport au monde vivant un peu plus sensible?
Ça m'a ouvert au silence. Moi, j'étais aussi peut-être une enfant qui parlait très peu Et les animaux, ils ont quand même beaucoup de silence. Enfin, ceux que j'avais autour de moi, moi, il y avait donc des animaux à demi sauvages, des pies qu'on trouvait dans la rue et qui venaient se réparer parce qu'elles étaient blessées. Il y avait même un fennec à un moment. Donc des animaux.
Tout ça
un peu
dans
étranges.
L'appartement.
Oui, c'est un appartement très grand à Paris. Mais j'avais une famille très spéciale. Et le silence, finalement, c'est un truc. Que je partage avec les animaux. Enfin, je les écoute beaucoup, je les regarde beaucoup. Disons que ça m'oblige à mettre des parts de moi que avec les humains, j'utilise moins.
C'est vrai. Est-ce que vous avez l'impression de grandir à leur contact ? C'est-à-dire grandir, c'est-à-dire d'apprendre aussi des choses sur vous ?
Ah bah énormément, ouais. Énormément. Mais que ce soit avec les animaux même domestiques, bah c'est quand même des êtres qui vous font, quand ça se passe bien, totalement confiance. Et donc ça met vraiment en confiance. Mais surtout, vous savez, j'apprends en lisant des livres ou sur les animaux ou en regardant les espèces sauvages, comment elles fonctionnent en collectivité, par exemple.
Ouais.
En fait, il y a plein de bouquins là-dessus sur le biomimétisme, des choses qu'on pourrait copier d'eux.
Bien sûr.
Notamment dans les bouquins de Baptiste Morisot sur les loups, sur la piste animale ou manière d'être vivant. Il y a beaucoup de parallèles dont on pourrait s'inspirer pour notre rapport aux humains d'une façon très privée et intime, mais aussi d'une façon plus générale, plus collective, peut-être plus sociale.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent aussi de leurs animaux avec la même poésie que vous, Laetitia Doche. Je pense à Catherine qui vient de nous envoyer un mail et qui nous dit « Je n'ai pas eu besoin de renouer, je vis avec des chiens depuis mon enfance, ils font partie de ma vie. » Et elle le précise « J'aime tous ces instants avec les animaux, voir les rapaces voler au-dessus de mon jardin, une biche qui traverse la route le matin en partant au travail, nager avec une perche pendant quelques secondes dans un lac savoyard, croiser des marmottes, des bouquetins en randonnée. » J'imagine, Catherine, vous ne l'avez pas précisé, mais que vous vivez sans doute à la campagne. Comment on vit avec nos animaux en ville, Valérie Chansigaud ? C'est ça aussi qui est notre rapport au vivant, il dépend aussi de tout ça ?
Oui, ça
de
dépend.
De nos pigeons, de nos rats, de toutes ces espèces qu'on regarde parfois avec un peu de mépris.
Ça dépend aussi de ses revenus, parce que vivre avec un animal domestique coûte cher et ouais. Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un grand appartement ou avoir tel ou tel animal. C'est un investissement en termes d'alimentation, de soins, etc. Donc c'est compliqué parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'urbanité, loin d'avoir diminué le rapport au vivant, l'a changé en permettant l'émergence des grands mouvements de protection des animaux et de la nature. C'est né dans les villes, c'est pas né dans les campagnes. Ce qui peut paraître tout à fait...
Oui, un peu contradictoire.
Contradictoire, ouais, mais ouais. Ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, pourquoi c'est né dans les villes ? Parce que les villes étaient porteuses d'un besoin de vivre ensemble, justement. Il fallait réguler les individus qui vivaient en grand nombre dans un espace réduit. Donc, il y avait des besoins, en fait, de socialité différentes. Et également... sans doute quand même une élévation du niveau de vie permise à ces villes et une grande partie des élites, parce que ça s'explique essentiellement par les élites, pas totalement, s'est intéressée à la protection de la nature et des animaux.
Mais alors quand vous nous parlez d'élite et de ce sujet-là, vous le situez où dans l'histoire ? C'est dans l'histoire contemporaine, oui. C'est-à-dire il y a 50 ans ou c'est encore plus récent que ça ?
Non, c'est plus vieux que ça. C'est-à-dire que, on va dire que à partir du XVIIIe siècle, on a en Europe, et notamment en Angleterre, mais aussi en Allemagne, dans les pays germanophones, l'idée qu'il faut protéger les animaux de la cruauté humaine. À peu près tous les philosophes de cette époque s'expriment sur le danger de la cruauté à l'égard des animaux, parce qu'elle menace l'ensemble de la société. C'est une violence qui menace l'équilibre social. Et donc, on va avoir l'émergence, au début du XIXe, de différentes sociétés de protection des animaux. Et juste un parallèle, la première société de protection des animaux en Chine émerge dans les années 1930, donc beaucoup plus tard, sous l'action des bouddhistes chinois pour des raisons politiques. Et au Japon, c'est encore plus tard, dans les années 1970. C'est vraiment une histoire qui s'inscrit vraiment dans une dynamique très occidentale, en fait, du rapport à l'autre et à la question de comment réguler une société, comment réguler une violence d'une société. Et ça, c'est intimement lié à l'histoire politique et intellectuelle de l'Europe.
Alors, la transition est toute trouvée pour parler de lois, parce que c'est aussi ça qui change dans notre rapport au monde animal. Les lois se multiplient, celles qui sont destinées à améliorer le bien-être animal. Hugo Clément, est-ce que ce processus législatif, il est suffisant? Alors je pense notamment, récemment il y a eu l'interdiction de la chasse à la glu, la fermeture des delphinariums qui est déjà programmée. Est-ce que pour vous, ça vous paraît suffisant? Ou ce sont que des petites gouttes d'eau?
Non, c'est pas suffisant. Ce sont des avancées incontestables. Je pense qu'il faut saluer les choses qui changent dans le bon sens. Mais on va dire la masse de l'exploitation animale, on sait très bien où elle se trouve. Elle se trouve dans les océans, avec la pêche industrielle. Il y a plus de 1000 milliards de poissons chaque année qui sont tués dans le monde. C'est le premier facteur d'effondrement de la biodiversité marine. On parle beaucoup du plastique, et c'est très bien. On parle beaucoup des marées noires, et c'est très bien. Mais le premier facteur de destruction de la biodiversité dans les océans, c'est la pêche, et de très très loin. Et ça se trouve aussi dans les élevages intensifs. Il y a 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour en France. Mmh. C'est un chiffre qui est tellement énorme que c'est difficile de se rendre compte. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la différence de traitement qu'on établit entre des espèces qui sont très proches. Par exemple, si aujourd'hui, dans la rue, vous passez à tabac votre chien, que vous le tuez à coups de couteau et puis que vous le faites rôtir au milieu de vos voisins, non seulement on va vous prendre pour un fou, mais la loi... Oui. Va vous punir, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. En revanche, un cochon, dans un élevage intensif, qui va être enfermé toute sa vie, qui va être martyrisé, qui va être dans un espace dans lequel il pourra à peine se déplacer, qui va être tué dans des conditions abominables dans les abattoirs, là, la loi l'autorise, et la loi accorde sa bénédiction à ce type d'exploitation. Alors que d'un point de vue biologique, d'un point de vue capacité cognitive, un cochon n'a rien à envier à un chien. Il y a d'ailleurs des cochons domestiques qui servent d'animaux de compagnie, qui se comportent globalement comme des chiens, qui répondent à leur nom, qui aiment les caresses, qui ont des interactions sociales avec leur maître. Et on continue aujourd'hui à faire une vraie différence entre des espèces, alors que ce sont des espèces très proches. Et ça doit nous interroger sur notre rapport aux animaux,
ouais,
finalement.
Bien sûr, ouais.
À partir du moment où on les mange, à partir du moment où on les exploite, on estime qu'on peut les traiter avec une cruauté infinie. Ce qu'on n'accepte plus, ce que la société n'accepte plus, en tout cas en Occident, pour les animaux de compagnie.
Alors, on a beaucoup de messages de nos auditeurs qui reviennent sur, quand on leur pose cette question sur leur rapport à l'animal, sur cette notion de « je mange moins de viande » ou « je n'en mange plus ». On sent qu'il y a vraiment un changement, enfin, en tout cas un début de changement dans nos pratiques et dans nos comportements au quotidien. Nous sommes en ligne avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Vous nous avez appelé parce que vous vouliez réagir sur l'émission. On vous écoute.
Oui, moi je suis une maman, puis maintenant je suis une grand-mère. Et j'ai toujours vécu à la maison avec des animaux, des chats principalement, parce qu'on était en ville et le chien, bon. Et c'est la valeur éducative pour un tout petit enfant d'avoir un animal à la maison. Ça lui apprend à faire attention. Si on lui présente l'animal autrement que comme une peluche, mais comme un être vivant à comprendre, à décoder, à respecter. Et je trouve que ça fait des enfants qui sont d'abord qui ont moins peur de ce qui est différent,
oui,
et qui sont précautionneux avec les autres à des âges où, bon, dans le bac à sable, on fauche le seau des autres ou autre. ça les responsabilise et ça les tourne vers les autres d'une façon plus généreuse. Enfin, moi, ça a été très important, le rapport à l'animal dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants.
Merci beaucoup, Anne-Marie, de nous avoir apporté votre témoignage. Valérie Chansigaud, est-ce que cette sensibilité au monde animal, elle naît justement avec ce genre de petits gestes au quotidien avec les enfants?
Elle peut naître.
Ouais.
Est-ce qu'elle suffit? Ça, j'en suis malheureusement pas sûr, mais elle peut naître, elle contribue. C'est toujours utile d'avoir cette notion-là. Mais je doute qu'elle suffise.
Laetitia Doche, est-ce que vous avez eu des remarques de la part des spectateurs concernant la présence de ce cheval sur scène avec vous? Est-ce qu'on vous a dit, mais vous voyez, finalement, c'est un peu contradictoire, vous avez envie de défendre les animaux, mais au fond, vous donnez en spectacle avec un cheval?
C'est ce dont on avait peur avec Judith qui s'occupe des chevaux.
Oui.
Ça s'est jamais produit. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà que le cheval, si vous voulez, il est pas du tout dressé. Donc, ce qu'il veut pas le faire, il le fait pas.
D'accord.
Et comme il adore jouer avec moi. Enfin, il adore jouer.
Oui.
Il est mort maintenant, le pauvre, mais il adorait jouer. Il va faire tout ce qui lui fait plaisir et on va même le voir choisir sur scène. Le spectacle il change tous les soirs parce que le cheval joue différemment, enfin fait des choses différentes. Et donc ce qu'on voit plutôt sur scène quand même, c'est un plaisir à être ensemble, je crois. Et comme la structure est pas trop rigide, ça se voit plus que on fait rien de spectaculaire en fait.
Oui.
Après, je sais que c'est une question morale chez les véganes qui on ne doit pas mettre d'animaux sur scène. Mais c'est quand même un truc dont on se prive et dont on les prive parce que enfin, en tout cas, Corazon adorait être sur scène. Il s'arrêtait.
C'est le nom de votre cheval, hein. Oui, oui, oui.
Ouais, ouais. Il y avait, moi, je sentais, en tout cas, alors peut-être que j'interprète, mais quand même, je le connais bien. J'ai travaillé 2 ans avec lui. Il y avait un plaisir à être là, à être sur scène, à être en tournée avec les gens qu'il aimait. Chaque fois qu'on partait en tournée, c'était le premier qui sortait du box. Il avait trop envie d'y aller. Il y avait quand même, il y avait un goût de ça, quoi.
Ouais.
Donc, je sais, j'ai l'impression qu'en fait, nos réflexions, elles doivent être plus fines que ça. Il faut qu'on affine nos critères.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il faut peut-être se poser la question, un animal sur scène, mais pourquoi? Pour faire quoi? Pour raconter quoi? Et comment il serait heureux dedans? Enfin, peut-être ça peut se poser de manière très précise. Et là, par exemple, je parle d'un cheval qui a une certaine personnalité. Pour un autre cheval, la même chose, ça aurait peut-être été insupportable.
Oui, tout à fait. On va reparler justement de notre place au milieu de toutes les espèces animales. Si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer un mail sur la page de l'émission. L'été comme jamais, je serai ravie de vous lire à l'antenne. La délicieuse Juliette Armanet et la chanson Cool Cat, reprise d'un titre du groupe Queen.
France Inter, l'été comme jamais.
Nous évoquons notre rapport au monde animal depuis ce matin dans l'été comme jamais. Hugo Clément, est-ce que une des clés de compréhension, une des clés pour essayer d'avancer dans ce débat, c'est pas de penser les écosystèmes dans leur globalité, c'est-à-dire accepter que nous dépendons des uns des autres?
Ah oui, mais ça, les faits nous le prouvent tous les jours. On dépend des écosystèmes. On voit bien, on a vu cet été, l'enchaînement des catastrophes naturelles qui est lié à notre manière d'exploiter la nature, perturbe notre vie au quotidien. On dépend de l'écosystème dans lequel on vit, ça semble être une évidence. Et si tous les maillons de la chaîne autour de nous disparaissent ou s'affaiblissent, on va aussi disparaître ou s'affaiblir. On n'est pas une espèce en dehors du règne animal qui vit sur une planète à part. On dépend de toutes les autres et ça doit justement nous donner l'impératif de respecter les autres espèces, même si c'est pas par empathie pour elles, même si c'est pas parce qu'on aime les animaux, ne serait-ce que d'un point de vue purement égoïste, dans le seul intérêt de l'espèce humaine, on a intérêt à s'assurer du confort, de la tranquillité et de la bonne santé des autres individus, des autres espèces.
Alors j'ai été marquée par une séquence dans un de vos documentaires de la série Sur le front, qui est diffusée sur France 5. Vous êtes dans le Jura, auprès de Gilles Moine du centre Athénas, c'est ça, un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Il a récupéré une femelle, lynx, Mona, c'est son petit nom. Il l'a soigné, il l'a ensuite réintégré dans la nature et c'est un animal qui demeure sous protection.
Nous nous demandons ce que devient Mona. A-t-elle survécu dans cette forêt impitoyable?
Grâce au collier GPS de Mona, Gilles reçoit sa position satellite tous les jours. Il peut donc suivre ses déplacements. Donc là, on part sur ses traces.
Alors là, elle est au-dessus de nous, elle est juste au-dessus du virage, là. Nous, on est ici, sur la route, et elle est ici, elle y passe la journée.
En vert, c'est là où on l'a relâchée ensemble.
Ouais, c'est ça.
Et depuis, on voit qu'elle s'est bien réappropriée son territoire.
Elle a fait des centaines de kilomètres.
Ah ouais.
C'est aussi caractéristique de la période de rut. Visiblement, elle essaie à la fois de marquer avec assiduité son territoire, et puis aussi de contacter un congénère mâle, autant que possible.
Ça, c'est un relâché réussi.
Complètement. Alors en plus, c'est porteur d'espoir parce que c'est une jeune femelle. Donc on sait qu'elle a devant elle quelques belles années pour perpétuer l'espèce et se reproduire.
Alors sachez qu'il y a deux bébés lynx qui sont nés dans les Vosges il y a quelques jours. Vous avez vu ça, Hugo Clément, j'ai pensé à vous.
Et Mona, dont on parle dans l'extrait, a aussi donné naissance à deux petits lynx qui vont bien et qui se sont aussi réappropriés leur territoire. Et le sujet du lynx, c'est un sujet qui est vraiment symptomatique de notre rapport aux espèces sauvages, parce qu'il y a à peu près entre 120 et 150 lynx en France. Donc c'est très peu, c'est une espèce qui est au bord de la disparition dans notre pays, qui est stable depuis quelques années. Et même avec des effectifs aussi réduits, même avec un impact sur l'espèce humaine qui est nul, puisque le lynx n'est pas dangereux, ne fait pas courir de danger sur l'homme ou sur l'écosystème, il y a des gens qui veulent détruire les lynx, et il y a d'ailleurs des braconniers de lynx qui tuent des lynx tous les ans, alors que c'est évidemment totalement interdit, simplement parce que le lynx chasse les chevreuils et que ça peut être une forme de concurrence mal vécue par certains chasseurs qui estiment inacceptable que un prédateur sauvage s'en prennent aux mêmes chevreuils qu'eux, et c'est leur chevreuil, et ça dit beaucoup de notre rapport à la nature, enfin en tout cas du rapport de certaines personnes à la nature, qui considèrent que c'est la propriété de l'être humain, que les espèces qu'on chasse sont la propriété de l'être humain, et que c'est inacceptable qu'un prédateur sauvage vienne finalement se nourrir et vivre sa vie de prédateur.
Cette notion de possession, Valérie Chansigneau, c'est ce que vous nous racontiez au début d'émission, il y a cette notion de domination, mais c'est aussi cette notion de possession qui échange notre rapport aux animaux.
Je dirais même la notion qui est même encore au-dessus d'inégalité. C'est-à-dire, si on regarde les facteurs sociaux qui expliquent l'érosion de la biodiversité, le facteur social qui est le plus fort, c'est pas la démographie, c'est pas la quantité de richesse par habitant, c'est l'importance des inégalités au sein d'une société. Plus la société est inégalitaire, plus la biodiversité qui vit sur ce territoire va être menacée. Pourquoi ? Parce que les causes sociales qui permettent l'agrandissement des inégalités, c'est celles qui vont provoquer l'effondrement de la biodiversité. Le fait, par exemple, de ne pas accepter la notion de bien commun.
Oui.
Plus on est riche, moins il y a de bien commun, puisque par définition, la richesse appartient de plus en plus, les richesses appartiennent de plus en plus à un petit nombre de personnes. Mais également, par exemple, la capacité d'épargne. La frange la plus riche va épargner de façon démesurée et pas forcément sur des choses vertueuses au niveau social ou environnemental, mais des investissements qui rapportent le plus. Donc on voit bien que cette destruction de la nature, c'est effectivement une partie des personnes qui en sont la cause, c'est pas tous les individus, et c'est intimement lié à la construction des inégalités sociales. Si on veut comprendre l'un, il faut expliquer l'autre, en fait. Les deux sont totalement liés.
Alors c'est d'ailleurs ce qui est remarquable dans votre livre sur la domestication, c'est qu'on s'aperçoit à quel point ce sujet de la domestication touche un tas de sujets à la fois philosophiques, sociaux et économiques de notre environnement aujourd'hui et de nos comportements au quotidien. Je voudrais vous lire un message de Stéphanie qui nous dit « Mon regard sur les animaux a changé grâce à une émission philosophique il y a 5 ans à la radio, sur la remise en cause, en question, de notre supériorité, comme vous le faites ce matin. Depuis, je ne caresse plus mes chats de la même manière, je ne tue plus les insectes avec autant d'ardeur et d'aplomb qu'auparavant, et je m'extasie encore davantage sur la beauté de la nature, de sa sauvagerie. J'enfonce des portes ouvertes, mais le choc philosophique m'a permis de me rendre compte de la barbarie de l'homme à l'égard du monde animal et vivant. » Et alors, quand je lis ce message et quand j'entends de nouveau le passage qu'on vient d'entendre, Hugo, sur votre documentaire, je me demande, est-ce que l'émerveillement, et je vous pose la question à tous les trois, est-ce que l'émerveillement, notre capacité à regarder cette faune avec un brin de poésie, avec une forme d'empathie aussi, n'est pas la première des solutions pour renouer avec le monde animal ? Laetitia Doche, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, je trouve ça très beau comme idée. Moi, volontairement, je m'éloigne toujours beaucoup de Paris en ce moment et je passe beaucoup de temps à regarder.
Oui.
Mais vous savez, vous parliez de comprendre comment est-ce qu'on était lié aux écosystèmes. Mais j'ai l'impression que de voir aussi quelle place on a dans cet écosystème, c'est tout un boulot quand même pour nous. C'est pas aussi naturel que pour les animaux, en fait, ou les végétaux. Nous, c'est chacun a une réponse différente. Et ça, c'est assez troublant, en fait, je trouve.
Il manque un message collectif, enfin une prise de conscience collective.
Je pense que c'est au contraire que, enfin oui, peut-être aussi, mais que c'est aussi une place très individuelle à comprendre quelle place dans l'écosystème on veut prendre en fait.
Oui, c'est toujours
dans l'écosystème du vivant.
Oui, c'est à quelle place nous sommes.
Je pense que Valérie et Hugo, ils le font chacun à leur manière, parce qu'ils sont animés par des convictions et donc ils veulent servir le vivant.
Hugo Clément.
Donc ils font partie de l'écosystème du vivant.
Et Clément, vous êtes d'accord avec ce que dit Laetitia ?
Oui, enfin, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Et moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est quand même de voir que les choses changent et avancent dans le bon sens. Il y a encore 20-30 ans, si on avait dit que l'élevage en cage, comme le prévoit l'Union européenne, allait bientôt être interdit, si on avait dit que les delphinariums allaient fermer, si on avait dit que les cirques allaient devoir se passer d'espèces sauvages, pas grand monde l'aurait cru. Bien sûr. On aurait probablement traité ces gens-là de doux rêveurs et on se serait moqué d'eux. Je trouve que le ton a changé, que de plus en plus de responsables politiques de haut niveau parlent de ce sujet. On en parle au Parlement, on en parle au Sénat et on en parle dans les médias. Et c'est en train de bouger et on voit que la consommation de viande diminue, on voit que de plus en plus de personnes s'engagent dans les associations et moi si j'ai vraiment, à chaque fois quand je rencontre les gens, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les animaux. Moi, la première chose que je dis c'est s'engager dans les associations de défense des animaux parce que plus il y aura de gens dans ces associations, plus le rapport de force politique entre les lobbies traditionnels, le lobby des chasseurs, le lobby de l'élevage intensif qui sont très puissants, très bien organisés, le rapport de force entre ces gens-là et ceux qui défendent les animaux et la nature va au moins s'équilibrer dans un premier temps et peut-être un jour basculer. Et quand ce rapport de force basculera, le politique sera obligé de prendre les décisions qui s'imposent et de faire changer notre rapport aux animaux. Parce qu'il est possible de faire quelque chose. Sur l'élevage, par exemple, on peut très bien arrêter de subventionner les modes d'élevage les plus intensifs. On peut très bien établir des normes plus restrictives qui interdisent d'enfermer des animaux toute leur vie dans des cages, d'enfermer des animaux toute leur vie dans des bâtiments fermés. Et quand vous regardez les sondages d'opinion qui sont faits en France sur ces questions-là, l'écrasante majorité des Français sont contre l'élevage intensif, contre la corrida, contre la chasse à courre, etc. Donc, l'opinion, elle est acquise déjà aujourd'hui à ces causes-là. Maintenant, il faut renverser le rapport de force pour que le politique suive l'opinion sur la question animale.
Alors, c'est bien d'entendre un message positif et de vous trouver optimiste. Valérie Chansigo, est-ce que vous partagez cet optimisme ?
Je vais jouer...
Avec l'historienne, avec tout le recul que vous avez en tant qu'historienne.
La pessimiste du groupe, c'est un rôle que j'aime bien en plus.
Il en faut toujours.
Et l'avocat du diable, il y a deux fonctions que je peux assurer. C'est que, certes, les choses bouge dans les pays les plus riches et essentiellement d'ailleurs dans les classes les plus riches de ces pays les plus riches. Mais quand on regarde l'ensemble de la planète, les tendances ne vont pas vers forcément une amélioration. Le nombre d'animaux en élevage augmente de plus en plus et continue d'augmenter. Et le nombre d'espèces domestiquées, ce phénomène que j'ai décrit tout à l'heure, augmente également de façon vertigineuse. Ça veut dire que l'emprise sur le vivant, pas forcément pour des bonnes raisons, ça il faudrait y revenir vraiment et insister, augmente. Et c'est bien là toute la difficulté,
ouais.
C'est comment arriver à faire dialoguer des groupes de personnes qui n'arrivent pas forcément à dialoguer. Et si on revient sur le petit exemple français, on se rend compte qu'effectivement, faire établir un dialogue réel et concret et productif autour du loup, du lynx et de l'ours, par exemple, pour prendre les trois grands prédateurs, c'est très compliqué. Mais ça serait encore plus compliqué si on envisageait un dialogue comme ça autour du moustique et la gestion du moustique. Parce que, en quelque part, le loup est un sujet facile. Dès qu'on aborde les petites bêtes et les invertébrés, là, c'est des sujets encore plus compliqués.
Ça vaudra une deuxième émission avec vous, Valérie Chansigaud.
Très volontiers.
On va revisiter l'Arche de Noé en 2021 et en musique. C'est maintenant et c'est dans l'été comme jamais.
Side to side.
Pierce Fachini accompagné de Ben Harper et d'Adèle Kébir Merkan pour le titre All Aboard. Il est temps pour moi de remercier nos invités du jour. Merci Valérie Chansigaud. Conseille notamment votre livre Histoire de la domestication animale aux éditions de Lachaud et Niestlé. Merci Hugo Clément. En attendant de découvrir les nouveaux documentaires de votre collection sur le front à voir sur France 5, je renvoie à vos deux livres Comment j'ai arrêté de manger les animaux, c'est au seuil, et Journal de guerre écologique publié chez Fayard. Merci beaucoup Laetitia Doche. Vous êtes actuellement au cinéma dans le magnifique film de Daniel Arbid, Passion simple, et vous serez ce soir donc au festival Agir pour le vivant qui se déroule à Arles. Toutes les informations sont à retrouver sur www.agirpourlevivant.fr. Comme tous les jours, une petite bulle d'oxygène supplémentaire, je voulais terminer avec un sourire à découvrir sur arte.tv et baptisé Athleticus. Quand des animaux sauvages se prennent pour des sportifs de haut niveau, des flamants roses qui font du saut à ski, des girafes du saut en hauteur ou des tortues engagées dans une course de relais. C'est une série animée constituée d'épisodes de 3 minutes. C'est très drôle, c'est poétique. L'anthropomorphisme par excellence, mais au service de l'humour, avec un regard, un brin moqueur sur les humains. Ce numéro de l'été comme jamais est une œuvre collective avec Juliette Medeviel à la réalisation, Nicolas Delmas à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. On se retrouve demain à 9h sur France Inter. Au cœur de notre réflexion, la pression sociale exercée sur nos corps, ceux des femmes et des hommes. En attendant, place à la philosophie avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne ce matin?
Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la chanteuse Kerena. Nous parlerons beaucoup d'absence, cette absence qui hante ses chansons, et puis aussi de ce mélange interculturel qui la rend si créative.